Alors vous pouvez éteindre vos bougies, on va les rallumer tout à l'heure. Le Christ est ressuscité.
Oui, il est vraiment ressuscité.
On peut recommencer, hein. Le Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Ah, quelle joie! La lumière a jailli dans les ténèbres de la nuit. La vie a vaincu la mort. L'homme est réconcilié avec Dieu. La vie nouvelle, la vie de Dieu, nous est donnée. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Désormais, plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Vous savez, il n'est pas simple, il est même difficile de prêcher la nuit de Pâques. Car nous sommes là au cœur de notre vie chrétienne, de notre foi, au fondement, à notre raison d'être, la résurrection du Christ. Et donc, la tentation, on voudrait tout dire, et en même temps, au fond, il n'y a rien à dire, car tout est dit dans la liturgie que nous célébrons cette nuit. Alors nous allons vers le lever du soleil, le vrai soleil, le Christ ressuscité, un soleil levant qui vient nous visiter. À lui dont il est dit dans le livre de l'Apocalypse, que nous lisons tous les dimanches soirs, « Les serviteurs de Dieu verront son visage et son nom sera inscrit sur leur front. La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil parce que le Seigneur Dieu les illuminera. » Et ils régneront pour les siècles des siècles. Alors nous avons allumé le feu pascal qui jaillit dans la nuit et qui est devenu lumière, la lumière du cierge pascal qui brille dans la nuit. Et vous savez que le cierge pascal représente au milieu de nous, au milieu de l'Église, le Christ ressuscité, lumière du cierge pascal duquel nous avons allumé nos propres bougies. Un Jésus ressuscité est la lumière qui jaillit dans la nuit de notre monde et qui vient éclairer tout homme. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Et en recevant la lumière dans nos vies, nous devenons nous-mêmes lumière du monde. Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire pour qu'elle éclaire toute la maison. Dans quelques instants, je vais bénir l'eau baptismale qui va servir pour les baptêmes. C'est le deuxième signe après le feu caractéristique de la veillée pascale. L'eau qui nous rappelle les eaux de la mer Rouge traversées par le peuple d'Israël qui fuit l'esclavage pour aller vers la terre promise. Mais c'est aussi l'eau qui jaillit du rocher dans le désert, vous vous souvenez, pour désaltérer le peuple. C'est plus encore l'eau qui jaillit du côté du côté Christ transpercé sur la croix. L'eau qui est utilisée dans le baptême par lequel nos frères et sœurs catéchumènes dans quelques instants vont être plongés, ils vont être plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui, pour entrer avec lui dans la vie de Dieu, la vie nouvelle, eau dont nous serons nous-mêmes aspergés, alors que nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Un des pères de l'Église parle du baptême comme d'une illumination. Ce bain est appelé illumination parce que ceux qui le reçoivent ont l'esprit illuminé, dit saint Justin. Alors, chers frères et sœurs catéchumènes, vous allez être plongés dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui, pour naître à la vie nouvelle dans le Christ, pour devenir fils et filles de la lumière. Nous avons entendu le long récit de l'histoire du salut à travers toutes ces lectures, de la création du monde jusqu'à sa recréation dans le Christ. Un Dieu a créé le monde par amour, par pur amour, parce qu'il est amour. Et par nature, l'amour se communique. Il a placé l'homme au sommet de la création pour partager avec lui sa plénitude et sa vie, pour le faire participer à sa beauté. Son intention était de faire entrer l'homme dans la communion avec lui. Et le péché de l'homme a introduit le doute et la méfiance. Il a provoqué une rupture, et cette rupture n'a pas arrêté Dieu, car Dieu est fidèle. C'est toute l'histoire du salut qui vient d'être déroulée devant nous en cette nuit. Il y a eu l'appel de Abraham, de Moïse. Il a envoyé les prophètes. La quatrième prière eucharistique résume cette histoire de manière admirable, je me permets de vous la rappeler. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Mais dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux. Tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde. Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Vous savez, une des oraisons que nous disons la nuit de Pâques, je ne sais pas si vous avez bien écouté, dit « Toi qui as fait merveille en créant l'homme, plus encore merveille, en le rachetant. » Donc l'évangile de Matthieu que nous venons d'entendre nous dit que à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, alors cela va être le cas pour nous dans quelques temps. Marie-Madeleine et l'autre Marie vint regarder le sépulcre. Elles viennent voir où on l'a déposé, rien de plus. Elles ne viennent que voir où on l'a déposé le Seigneur. Les gardes qui surveillent le tombeau sont là. Elles viennent car elles sont restées attachées à celui qu'elles ont aimé et admiré. Mais manifestement, elles n'attendent rien de plus. Mais quelle surprise ! L'ange du Seigneur vient rouler la pierre et leur annoncer que Jésus, le crucifié, n'est plus là, qu'il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Il leur demande immédiatement d'aller dire à ses disciples, d'aller le dire et l'annoncer à ses disciples. Donc, surprise totale. Elles sont bouleversées et remplies à la fois de crainte, complètement dépassées, en fait, par ce qu'elles viennent d'entendre, et en même temps d'une grande joie. Et c'est en allant porter la nouvelle à ses disciples que Jésus ressuscité vient à leur rencontre. Elles deviennent ainsi les premières témoins du Christ ressuscité. Il en va de même pour nous. C'est en allant annoncer la bonne nouvelle reçue que nous rencontrerons le Christ ressuscité. C'est en sortant pour aller vers nos frères et sœurs que Jésus ressuscité se manifeste à nous. Le Christ est ressuscité. La résurrection du Christ est l'événement qui fait basculer l'histoire de l'humanité. Le sens de la vie et de la mort sont radicalement modifiés. La foi en la résurrection est le fondement de la vie chrétienne. Si l'on supprime la foi dans la résurrection, ou si on considère que ce n'est pas si sûr, que c'est une manière de dire les choses, ça on l'entend encore, que c'est symbolique, alors le message de l'Évangile est sans doute digne d'intérêt, mais ce n'est qu'une conception religieuse du monde parmi d'autres. Jésus demeure une figure intéressante, mais en réalité, c'est un échec et nous ne sommes plus chrétiens. Alors, la résurrection est un véritable événement historique. On a déposé Jésus mort dans le tombeau et il n'y est plus. Et les premiers disciples, Marie-Madeleine et l'autre Marie, les premiers, ou les premières, vont rencontrer Jésus ressuscité. Et aussitôt après, ce sera le cas, le tour des apôtres et des disciples. Ils ne s'y attendaient pas, manifestement. Ils n'avaient pas compris quand Jésus leur annonçait sa mort et sa résurrection. C'est pour cela que Marie-Madeleine et l'autre Marie sont à la fois saisies de crainte et remplies de joie. Effectivement, c'est un événement qui dépasse tout entendement et pourtant qui va être pour eux et pour elles incontestable. Vous savez, la foi des chrétiens réside dans la résurrection du Christ. Que le Christ est mort, tous y croient, même les païens. Qu'il est ressuscité, seuls les chrétiens le croient, et celui qui ne le croit pas n'est pas chrétien, dit saint Augustin. Alors, la résurrection du Christ, vous le savez, n'est pas un simple miracle d'un cadavre réanimé, comme pour Lazare. La résurrection de Jésus est d'un autre ordre. C'est le passage dans une vie nouvelle qui n'est plus soumise aux lois de la mort. Une vie d'un autre genre, d'un genre nouveau. Et célébrer la résurrection, c'est pas seulement faire mémoire d'un événement passé, c'est affirmer que Jésus est vivant aujourd'hui au milieu de nous, que nous pouvons faire l'expérience aujourd'hui et maintenant de la rencontre avec lui et recevoir sa vie et vivre de sa vie. La vie éternelle, la vie en Dieu n'est pas seulement une promesse pour après la mort. Notre vie terrestre n'est pas une espèce de salle d'attente où, avant d'entrer, plus tard dans la vraie vie, nous vivons déjà maintenant de cette vie nouvelle. Vous êtes ressuscité avec le Christ, dit saint Paul, recherchez donc les réalités d'en haut, non celles de la terre. Ou une des préfaces de Pâques, dit ceci, dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. Il y a au moins deux conséquences à cela, sans doute plus, mais notre rapport au monde, on est complètement modifié. Nous passons notre vie sur la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. Nous regardons le monde à la lumière de la mort-résurrection du Christ. c'est-à-dire avec un regard d'espérance, car nous savons que la puissance de la mort et de la résurrection du Christ est plus grand que tout le mal. Plus un chrétien vit autrement. Il ne s'agit pas de vivre en dehors du monde, mais de vivre autrement dans le monde. Et cela implique un choix, une forme de rupture. C'est pour cela que je vais demander à nos frères et sœurs catéchumènes qui vont être baptisés, hein, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Hein, cela suppose de laisser la vie baptismale se déployer en nous et d'en prendre les moyens. Cette nuit de Pâques, je vous invite à devenir ce que vous êtes, sel de la terre et lumière du monde. Être chrétien, c'est aussi avoir reçu une mission. C'est avoir été choisi pour une mission. Hein, c'est une demande formelle du Seigneur. Je vous cite le pape François. En réalité, ou en vérité, et en vertu du baptême, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. La mission n'est ni une partie de ma vie, ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice, ni une manière ou un moment de l'existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de ma vie, de mon être. Si je ne veux pas me détruire, je suis une mission sur cette terre. Et c'est pour cela que je suis dans le monde. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission. Alors, mes chers frères et sœurs qui allez être baptisés, vous allez être institués missionnaires, comme le sont chacun d'entre nous. Le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Il est vraiment ressuscité.